Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la vulgarisation scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Cette semaine, nous avons rencontré Georges Bosser. Cet étudiant effectue actuellement sa thèse à la fois au sein des laboratoires de Supélec, mais également au sein de l'entreprise Amosys, spécialisé dans la sécurité informatique. Il réalise ses études dans le domaine des télécommunications web, un domaine qui a pris de l'ampleur depuis l'installation d'Internet dans la plupart des foyers et des institutions et qui est très propice aux rencontres frauduleuses et mafieuses. De nombreux intrus tentent constamment de s'introduire dans nos ordinateurs pour passer incognito et semer le trouble dans nos données personnelles. Une pratique dont beaucoup d'internautes sont victimes si leur système de protection ne détecte pas tous les intrus. C'est ce que tente d'améliorer Georges Bosser. Il identifie sur Internet ces imposteurs afin de mieux préparer les systèmes de détection d'intrusion, appelés plus communément les IDS. Georges Bosser, bonjour.
Bonjour.
Donc vous effectuez votre thèse à la fois dans un laboratoire, mais également dans une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux structures ?
Donc en fait, je réalise une thèse CIFRE. C'est le nom du contrat qui permet de financer la thèse. Et l'objectif, ça va être de partager l'encadrement du thésard, donc moi, et le subventionnaire. Donc le financement va être supporté par une entreprise qui va permettre de rapprocher l'entreprise avec un laboratoire qui va servir d'encadrement pour la thèse, en fait. Donc on a deux entités, un laboratoire public, Supélec, dans mon cas, une équipe, donc avec un directeur de labo qui va permettre de valider mes choix techniques et de me diriger. Et donc un thésard, moi, et une troisième entité, Amosys, qui est la société qui subventionne et donc qui aussi m'héberge le temps que je termine ma thèse.
Et donc Amosys, c'est plutôt une boîte de conseil ?
C'est une entreprise du nord de Rennes qui est spécialisée dans le domaine de la sécurité informatique, plus globalement de la sécurité des systèmes d'information, et elle est spécialisée notamment sur tout ce qui est audit, conseil et expertise des acteurs de l'information, et donc elle va autant intervenir en amont, c'est-à-dire pour vérifier que tout se passe bien, que le système est bien sécurisé, ainsi que donner des conseils au moment où on va vouloir créer son propre système d'information, et elle va aussi intervenir plutôt à chaud, soit lors de conflits, lors d'une attaque, ou en prévention, sur un système en fonctionnement pour vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité, ce genre de choses. Donc ça reste la maîtrise de l'information et du conseil, de l'expertise pour pouvoir sécuriser un système d'information.
Alors quels sont les avantages et les inconvénients à effectuer sa thèse au sein d'un laboratoire et d'une entreprise en même temps ?
Il y a nombreux avantages. Déjà, pour moi, le premier avantage, c'est de pouvoir sortir un petit peu du monde académique. Le temps, sur 50% du temps finalement, parce que la moitié du temps, je vais faire ça en entreprise et puis l'autre moitié, a priori, au laboratoire de recherche. Et donc pendant 50% de mon temps, je vais être encadré presque par un professionnel, par un industriel qui est plus confronté à des problématiques quotidiennes, on va dire plus réalistes, plus terre-à-terre qu'un laboratoire et une recherche plutôt académique qui, elle, va plutôt se projeter dans un futur plus ou moins lointain. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir mélanger ces deux aspects-là. Donc, le premier, ça va être la réalisation pratique et la réponse à un problème donné, bien défini. Et la deuxième, plutôt une visée académique qui va être globalement de théoriser et également de répondre à un problème, mais plus à long terme. Et le deuxième aspect, ça va être de pouvoir faire des petites pauses dans sa thèse, le temps de participer à la vie de l'entreprise, en fait.
Alors, Georges Bosser, on va maintenant parler de votre thèse. Quel est l'intitulé exact et en quoi consistent vos recherches ?
Alors, l'intitulé exact, c'est « Mise en place d'une méthodologie d'évaluation des systèmes de détection d'intrusion » ou appelé aussi IDS. Si on simplifie un peu tout ça, je dois trouver une solution pour vérifier si les IDS, qui sont des équipements de sécurité, fonctionnent et à quel point et dans quel cas il fonctionne ou il ne fonctionne pas.
Vous me parlez des IDS, en gros c'est une sorte de solution de protection.
Exactement.
Et est-ce qu'il y a des équivalents qui nous parlent plus à nous, utilisateurs lambda ?
Alors, il y a en règle générale trois grandes familles de systèmes de protection. On retrouve sur l'ordinateur de tout le monde finalement, que ce soit du milieu professionnel, industriel et aussi familial, des antivirus, donc qui permettent de se protéger des programmes malveillants. Et on retrouve également plutôt à toutes les échelles, donc industrie, familiale, ce genre de choses, la notion de pare-feu, donc qui est un autre équipement de sécurité équivalent à l'antivirus, mais qui va plutôt filtrer comme une porte finalement, filtrer les connexions entrantes et sortantes. Donc l'objectif, ça va être d'autoriser ou de refuser la communication avec telle ou telle personne ou tel site internet. Donc ça, c'est deux équipements connus globalement du grand public. Et il y a un troisième équipement qui, lui, intervient chez les industriels ou chez les professionnels et qui consiste à considérer qu'on ne peut pas sécuriser un système d'information, qu'il y aura forcément une faille de sécurité, qu'à un moment ou un autre, on va forcément se faire attaquer et que l'attaquant va réussir, plus ou moins. Et on va chercher à monitorer, donc à détecter une intrusion. Et donc pour ça, on met en place donc des équipements de sécurité qui s'appellent des IDS, qui vont permettre de vérifier et de détecter une intrusion réseau, et non pas de les prévenir. Il n'y a aucun objectif aux IDS d'empêcher une intrusion. L'objectif, c'est seulement de les détecter. Donc ça part vraiment d'un constat qui est assez intéressant, c'est d'accepter le fait qu'on ne peut pas sécuriser un système à 100%.
Et donc il y a plusieurs sortes d'IDS,
oui,
qui s'adressent à des réseaux différents, j'imagine.
Donc il y a des IDS plutôt spécialisés pour la protection des petits systèmes d'information. Il y en a qui vont plutôt être difficiles à maintenir, d'autres qui vont être très performants mais gourmands en ressources, ce genre de choses. Et donc tout ça, ça va dépendre en fait de la famille et des méthodes de détection et des algorithmes qui vont être implémentés dans les IDS. Donc on retrouve globalement deux grandes familles d'IDS, les IDS par signature et les IDS par comportement. Donc c'est deux méthodes de détection qui vont être opposées. La première, donc la détection par signature, ça va être d'autoriser tout, sauf ce qui est dans une base de données. Et l'inverse, ça va être donc globalement les IDS par comportement, par analyse comportementale, qui va permettre de refuser tout, sauf les comportements qui sont autorisés. Donc c'est vraiment deux visions opposées. Souvent, on a tendance à croire que c'est plutôt une analyse comportementale qui est la plus adaptée à la problématique de la détection d'intrusion, à savoir on refuse tout sauf un comportement légitime, plutôt qu'une détection par signature, mais qui est beaucoup plus simple à mettre en place, qui à l'inverse autorise tout, sauf ce qui fait partie d'une base de données de comportement malveillant.
Et donc pour résumer, en gros, donc des IDS, c'est ce qui serait utilisé pour des réseaux comme le réseau d'une université ou d'une petite boîte.
Alors tout le monde peut installer des IDS, on retrouve plein d'IDS, que ce soit des IDS commerciaux ou des IDS gratuits, téléchargeables du monde du Linux, des logiciels libres. Et donc on retrouve globalement les IDS sur tous les systèmes d'information qui ont des données à protéger et qui ont peur de ne pas pouvoir détecter une intrusion. Donc souvent, une famille ne va pas considérer ses données personnelles suffisamment importantes pour justifier l'installation d'un IDS. Mais globalement, on retrouve le secteur bancaire, bien sûr, les assurances, la bourse, tout ce qui est grandes universités, où il y a beaucoup de postes à devoir sécuriser, de l'information, des équipes de recherche. On retrouve aussi naturellement tout ce qui est militaire, les grandes entreprises, donc toutes les grandes entreprises du CAC 40, par exemple, ce genre de choses, donc qui ont des données très importantes à sécuriser et qui doivent absolument suivre une procédure spécifique lorsqu'il y a intrusion.
Vous travaillez donc sur les IDS. Alors, quel rôle est-ce que vous jouez pour tester l'efficacité ou les failles de ces IDS ?
Alors, le but donc d'un IDS, c'est de détecter une intrusion. Donc, pour pouvoir vérifier qu'un IDS fonctionne, l'objectif, ça va être de simuler des intrusions et de vérifier que celles-ci soient bien détectées par l'IDS. Il y a un autre aspect de l'IDS qui va être de vérifier que l'IDS ne détecte pas des comportements légitimes comme étant des intrusions. Parce qu'il est autant dangereux pour un équipement de sécurité de ne pas détecter une intrusion que de détecter un comportement légitime comme étant une intrusion. Ça va noyer les alertes en fin de compte. Si au milieu de 300 alertes d'intrusion, il n'y a qu'une seule intrusion réaliste, réelle, l'administrateur, le responsable sécurité va complètement être perdu. Donc je vais générer des événements que je vais confronter à un IDS et je vais essayer de vérifier que l'IDS détecte ou classifie correctement finalement les événements en étant des intrusions ou des non-intrusions.
Vous prenez le rôle comme un pirate et vous faites des attaques. Et alors j'imagine qu'il y a des attaques plus stratégiques que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous citer les différents types d'attaques ?
Il y a plein de catégories d'attaques. Globalement, on retrouve les principales attaques comme des DDoS ou des attaques distribuées. Donc où on va avoir plusieurs personnes malveillantes qui vont essayer de saturer les ressources de la cible, donc du système d'information attaqué. Donc l'objectif va être d'empêcher le fonctionnement d'un site internet, par exemple, en s'y connectant à plusieurs personnes. Il y a aussi des attaques plutôt basées sur l'utilisation de virus qui vont être contrôlés par le réseau. Donc l'objectif, ça va être d'envoyer un virus spécifique par un mail, par exemple, et de faire exfiltrer de l'information. Donc de faire sortir du système d'information attaqué des informations sensibles, comme les logins et les mots de passe, comme les numéros de compte bancaires, ce genre de choses. On retrouve également des attaques sur l'intégrité des données. On va retrouver des attaques sur la saturation. Il y a vraiment plein de catégories différentes d'attaques.
Et tout de suite, une petite pause musicale. On écoute Dum Dum Girls avec le titre Bedroom Eyes. De retour dans le Labomatique, Georges Bossert revient sur les attaques sur Internet. Il nous explique en quoi consiste son travail sur les botnets, des virus un peu particuliers, contrôlés à distance, qui circulent très couramment sur Internet.
Alors c'est classé, on va dire, c'est l'une des plus grandes menaces sur Internet de nos jours, c'est la présence de botnets. Oui. Donc là, tout le monde y est confronté. D'après les derniers rapports de l'Europe, on estime, enfin le rapport publié en début de cette année, indiquait des chiffres comme un tiers de la population européenne était contaminée par des botnets. Donc c'est une menace vraiment à prendre en compte.
Et alors quel genre d'action exercent les botnets sur notre ordinateur ?
Alors comme tout à chacun, on a tendance à télécharger des informations depuis Internet. Et parmi ces informations, malheureusement, souvent, volontairement ou même involontairement, on va se retrouver avec des virus. Et ces virus-là, qui font partie d'un botnet, vont être contrôlés par un attaquant qui se trouve à l'extérieur de son système d'information et qui va donner des ordres à tous les virus qu'il a réussi à propager. Et donc ces virus ou bots vont permettre de transformer le système, l'ordinateur sur lequel ils sont installés en zombies. Et ces zombies vont faire partie d'une armée, d'où le terme de botnet, de réseau de bots ou de réseau de zombies. Et cette armée va être contrôlée par un ou plusieurs attaquants. Et on retrouve très facilement des réseaux de zombies, des botnets, de l'échelle de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions d'ordinateurs. Donc forcément, ça implique une force de frappe vraiment intéressante pour un attaquant, de pouvoir utiliser plusieurs millions d'ordinateurs ou plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs pour saturer les ressources d'un serveur, pour attaquer tel système d'information, et ainsi de suite.
Pour obtenir des informations, tout ça.
Pour cryptanalyser des codes, pour pouvoir casser des protections qui nécessitent beaucoup de calculs, ce genre de choses.
Et alors, comment se déroule votre travail pour identifier les différents botnets qui circulent ?
Alors, je ne travaille pas vraiment sur l'identification des botnets. Je les étudie globalement comment ils fonctionnent sur Internet, donc c'est-à-dire que je me balade sur Internet et j'essaie de trouver des botnets représentatifs de ce qu'il existe actuellement. Je les télécharge et je les mets en environnement confiné. C'est-à-dire que, comme pour un laboratoire, qui manipulerait de véritables virus, je les prends je les installe sur des systèmes qui sont complètement séparés d'Internet et j'essaye de les étudier au maximum de manière à pouvoir les modéliser. L'objectif étant de pouvoir reproduire des souches contrôlables, pas trop agressives en tout cas, donc de réduire la dangerosité de la souche, de manière à pouvoir l'intégrer dans une méthodologie de test des IDS. De pouvoir en fait réaliser utiliser ces souches et de les confronter face à des IDS pour vérifier qu'ils fonctionnent bien.
Et alors, une fois l'étude sur les botnets terminée, vous allez travailler sur quoi ?
Je vais m'attaquer à une autre menace, globalement. Je pense que j'en ai encore pour quelques mois à travailler sur les botnets. Et une fois que j'estime ou que quelqu'un, donc mes encadrants, auront estimé que j'ai fait le tour, je vais passer à une autre menace. Ça dépendra vraiment de l'actualité. Ça dépendra également des ressources que j'ai à ma disposition.
Et alors, en parallèle de ce travail, vous concevez un logiciel appelé NetZob.
Oui.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce logiciel ?
Donc, c'est un logiciel libre, en fait, qu'on développe, donc je développe avec un collaborateur d'Amosys, et qui fait partie de ma thèse, donc qui est également, développé aussi par Supélec. Et l'objectif, c'est de proposer à tout le monde, de manière libre, un système qui permette de vérifier que son IDS est fonctionnel. L'objectif, ça va être pas trop pour du particulier, mais plutôt pour de l'industriel, avant de faire un acte d'achat, de télécharger NetZob, de l'installer, de l'utiliser, donc qui nécessite quand même quelques compétences, et de pouvoir le confronter à un IDS de manière à vérifier, avant d'acheter l'IDS en question, qu'il fonctionne bien.
Et alors du coup, ça va demander à être réactualisé, j'imagine, comme logiciel, vu que tout évolue très rapidement.
Exactement.
Sur Internet.
Et c'est un des gros avantages de ce logiciel-là. Il a été développé de manière à pouvoir évoluer très rapidement, très facilement. Le principe de NetZob, ça va être de pouvoir prendre un virus qui se trouve sur Internet, de l'exfiltrer d'Internet, de le télécharger, de le mettre dans NetZob, et de manière à obtenir un modèle qui permet de caractériser le virus. Avec des compétences, sans être un spécialiste du milieu des botnets, on va être capable de pouvoir simuler des botnets en environnement confiné et donc vérifier qu'un IDS fonctionne bien.
Alors Georges Bossert, vous avez l'air passionné par vos études. Est-ce que vous avez toujours voulu travailler dans le domaine informatique et des télécommunications ?
Ah oui, alors ça a dû commencer quand j'étais adolescent, je pense, à peu près comme tous les adolescents, je suis tombé sur un ordinateur, je suis tombé sur Internet au début. Et là, au lieu d'aller sur des sites de jeux, globalement, j'ai préféré partir sur le milieu de la sécurité informatique. Donc là, ça a commencé vraiment à ce niveau-là. Donc pour ça, j'ai fait un bac, l'équivalent d'un bac S, mais à l'étranger. Après un échec à l'université, je suis parti en IUT. Là, j'ai vraiment trouvé ma voie en IUT réseau et télécommunications, donc c'était à Saint-Malo. Donc après 2 ans d'études, je me suis retrouvé avec un diplôme que j'ai voulu valoriser en intégrant une école d'ingénieur, donc sur Rennes. Et là, j'ai fait une spécialité donc, qui n'est pas vraiment liée à la sécurité des systèmes d'information, mais plutôt lié à la problématique de la modélisation, ce genre de choses, à la communication. Donc j'ai fait une spécialité télécommunication à l'IFSEC. Et donc j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, et là j'ai eu la possibilité de faire une thèse à Supélec. Donc je suis entré en thèse donc depuis un an maintenant.
Et alors au niveau de l'actualité, est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Quelle est la dernière grosse affaire de piratage?
J'ai fait un petit peu le tour là ce matin de l'actualité. On retrouve le New York Times qui publie des informations sur la cyberguerre introduite par les États-Unis pendant le conflit libyen, donc qui n'a finalement pas été mise en œuvre apparemment, mais. Donc tout ça, ce sont jamais des informations qui sont vérifiées, parce que ça reste quand même des informations très sensibles. Mais il suffit de lire l'actualité pour tomber sur des sujets qui traitent de la sécurité informatique et de globalement ce qu'on appelle la cyberguerre, donc l'utilisation d'armes informatiques dans le cadre d'un conflit officiel, même officieux. Et un bon exemple de ce genre de choses, c'est un virus qui a défrayé la chronique, ce qui s'appelle le Stuxnet, donc qui est un virus qu'on a découvert dans les centrifugeuses Siemens de l'Iran et qui, a priori, aurait été implanté dans ces centrifugeuses par un gouvernement, mais ça, on peut jamais être sûr. Et donc, c'était un virus qui avait comme objectif de ralentir la production de matériel nucléaire. On retrouve en début de cette année un chercheur américain qui a trouvé comment pirater à distance une pompe à insuline. Donc ça paraît anodin comme ça. Et finalement, il a réussi à pouvoir gérer à distance, donc en se mettant à côté de sa cible, donc il serait diabétique avec une pompe à insuline donc qui permet d'effectuer le dosage de manière quotidienne en insuline, de pouvoir modifier à distance, sans en avoir l'autorisation, la quantité d'insuline, et donc d'engendrer une mort de la personne.
Ça peut aller très loin. Alors.
Voilà. Oui. On va jusqu'à... En fait, la sécurité informatique, et donc les attaques qui vont avec, ciblent toutes les surfaces possibles offertes par Internet et par l'informatique. Et comme on retrouve de l'informatique partout, comme les systèmes sont de plus en plus interconnectés, on retrouve avec des menaces de plus en plus importantes.
Et est-ce qu'il y a un pays ou des pays où les réseaux mafieux sont plus nombreux qu'ailleurs ?
Alors, officiellement, il y a des rapports qui tombent donc par les grands antivirus. On peut citer Kaspersky, Symantec, ce genre de choses, donc, qui publient de manière très régulière la liste des pays qui ont participé à des attaques. Donc, pas du tout des gouvernements, hein, mais des citoyens de ces pays-là, qui sont plutôt attaquants ou plutôt attaqués. Et on retrouve globalement 3 ou 4 grands pays de manière récurrente dans la liste. Donc, on retrouve la Russie, par exemple, où on retrouve beaucoup d'utilisation de la cybersécurité, donc des menaces informatiques, pour pouvoir faire de l'argent, donc dans le cadre d'activités mafieuses. Par exemple, dans le cadre de demandes de rançon, ça marche très bien, ça. On envoie un virus sur une cible qui vole toutes les informations, et on propose à la cible, après, de lui revendre ces informations. Et donc ça, c'est plutôt les réseaux mafieux, on va dire, de l'Est, qui vont aussi essayer de voler nos codes bancaires en se faisant passer pour notre site de banque, ce genre de choses. On retrouve également la menace, entre guillemets, chinoise, où là, ça vise plutôt l'information. Et c'est plus une guerre économique, d'espionnage économique, d'espionnage technologique, où on va avoir des menaces beaucoup plus pointues, beaucoup plus spécifiques, de manière à pouvoir exfiltrer des entreprises françaises, des activités militaires ou même scientifiques, des informations économiques ou technologiques destinées à soutenir la production chinoise. On retrouve également des pays d'Amérique latine, comme le Brésil, qui est réputé pour des virus ou des virus bancaires.
D'accord.
Globalement, les pays de l'Est avec la Russie, qui était un précurseur. Les États-Unis aussi, qu'il ne faut pas oublier, mais où là, il y a un contrôle quand même plus important de la part de l'État, et donc qui va permettre de réduire les menaces. La Chine, là, il y a très très peu de contrôle, donc les gens ont tendance à faire un peu ce qu'ils veulent, et l'Amérique du Sud avec le Brésil.
Bah, merci beaucoup.
Mais de rien, avec plaisir.
Pour écouter cette émission, vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet de radiocampusrennes.fr. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique.